les élucubrations d'Hermeline sur Radio U 101.1 FM.
C'est dimanche, il est 21h à Brest, vous êtes à l'écoute de Radio U sur 101.1 FM. Chers auditeurs, bonsoir, c'est l'heure des élucubrations d'Hermeline. Et vous, quel est votre souvenir vintage un dimanche sur deux sur Radio U 101.1 FM? Cet été, les élucubrations d'Hermeline vous proposent une série de 4 émissions originales. Parce que le 9 septembre, à 20h, je serai sur scène à la Comédie du Finistère aux Ateliers des Capucins à Brest pour mon premier seul en scène. Un spectacle dans le prolongement de l'émission Les élucubrations d'Hermeline. Et vous, quel est votre souvenir vintage sur Radio U? 1h15, intimiste et interactive avec le public. Et un spectacle qui sera mis en scène par Hugo Labori, mon prof d'impro à la Comédie du Finistère, que j'ai invité cette année, le 7 juin de mémoire, pour une émission sur l'impro. Et j'ai eu envie, pour préparer ce spectacle, de tester et partager avec vous une expérience inédite en radio, la mise en scène audio. Et j'ai fait appel pour cela à deux artistes metteurs en scène de grand talent avec lesquels j'ai été en stage à la Maison du Théâtre de Lambézélec à Brest. Delphine Vespier, qui a fondé la compagnie Bataya. Bonsoir Delphine.
Bonsoir Isabelle.
Et qui sait comment porter haut la voix. Et Steve Brudet-Nelson, qui a fondé le Théâtre de la Coche à Brest, qui se définit comme un enseigneur. Et nous verrons ça plus tard avec Steve lorsqu'il me rejoindra. Alors Delphine. Déjà, ce serait sympa si tu pouvais te présenter aux auditeurs et présenter la compagnie Bataya.
Oui, alors, et puis, juste te dire, l'intitulé du stage à la Maison du Théâtre, c'était « Porter haut le texte ». Et moi, j'aime bien dire « Oser lire ». Voilà. Mais voilà, c'est le texte. Alors moi, Bataya, c'est une compagnie de théâtre principalement professionnel, donc qui est basé dans les Côtes d'Armor. Et Bataya est né suite à une expérience assez longue d'une autre compagnie que j'avais créée pour pouvoir travailler avec des artistes de Cuba, donc de la Havane principalement. Et voilà, donc la compagnie du Chien Bleu a été un grand nombre d'années d'échanges entre La Havane et Saint-Brieuc. Voilà, donc j'ai donné des stages là-bas, j'ai joué là-bas dans différentes formules, différentes situations. Voilà, et puis mes compagnons de route sont maintenant... parti, et donc l'aventure à Cuba s'est éteinte en même temps qu'eux, et même si je garde un lien fort avec ce pays, voilà, et puis on a fini par créer avec la compagnie du Chien Bleu le monologue, le dernier chapitre d'Ulysse de James Joyce, et ça a été donc le tout dernier, la toute dernière création, avant d'arrêter la compagnie et d'en remonter une, donc Bataya, mais de très différente et de faire de manière très différente. Et moi, je m'étais rendu compte, en fait, au fil du temps, que les gens prenaient de moins en moins la parole pour pouvoir affirmer leur point de vue. Et que au fil des années, ça fait à peu près une vingtaine d'années que je suis sur cette idée de comment transmettre, comment faire en sorte d'entendre des lectures justes et comment faire en sorte de transmettre tout ce que j'ai pu vivre avec différents metteurs en scène et différentes expériences pour que les gens puissent se sentir à l'aise pour lire. Et je me suis rendu compte que quand on libère la lecture, ou en tous les cas, quand on donne un moyen de lire, en fait, les gens s'expriment beaucoup plus facilement après. Et voilà, ça enlève une barrière qui est mise beaucoup par, malheureusement, la façon dont on apprend certaines choses à l'école. Et donc voilà, donc j'aime beaucoup transmettre cette méthode pour que les gens puissent avoir la liberté de lire à souhait. Et puis voilà, la compagnie Bataya, c'est aussi une compagnie, une troupe d'acteurs au mode et au rythme de pensée différents, donc qu'on dit en situation d'handicap, avec lesquels on vit une aventure théâtrale autour de la thématique de l'amour et de l'autonomie. Mmh. Et puis voilà, et puis j'ai aussi écrit un texte qui s'appelle « Renaître n'a jamais été au-dessus de mes forces », qui est donc une phrase que Colette a répétée beaucoup de fois dans sa vie pour au démarrage de chacune de ses nouvelles vies.
Je crois donc, que le fondement d'être artiste, c'est renaître. On ne fait que renaître, en fait. On crée, on se réinvente.
Voilà, tout ça, c'est exactement ça. Et voilà, dans ce texte-là, la personne avec qui je l'ai écrit, Servane Deschamps, a amené le Gai Savoir de Nietzsche et qui explique si bien que l'art peut être un moyen de une sacrée bonne béquille pour pouvoir remonter de tout type de chute qu'on peut avoir dans nos vies. Mmh. Et voilà, j'en suis convaincue, la musique, la peinture, la danse, le théâtre évidemment, la littérature évidemment, permet de faire en sorte de pouvoir remonter de beaucoup de choses, oui.
Alors, porter donc, voilà. Le texte que tu animais donc à la Maison du Théâtre de Lambézélec, oui. À partir de textes que chacun et chacune d'entre nous avions choisis. Moi, voilà. J'avais choisi un passage... Alors, Bataya, ça m'a fait sourire parce que c'est bataille en espagnol. Oui. Je t'ai entendu sur Radioactive de mémoire en parler.
Oui. Oui.
Donc, le texte que j'ai choisi est un passage du livre de Léonore de Ricondo, Marcher dans tes pas, aux éditions L'Iconoclaste. Léonore de Ricondo est violoniste et autrice. Et dans ce roman, elle se situe dans les pas de Enriqueta, sa grand-mère paternelle, qui fuit le franquisme et perd 40 ans plus tard, une loi espagnole permet aux descendants d'exilés politiques d'obtenir la nationalité espagnole et elle décide de la demander. Léonore entame une démarche bureaucratique contemporaine qui m'a rappelé celle effectuée par mes grands-parents arméniens lorsqu'ils ont demandé la nationalité française en 1937, une première fois, et en 1947, une seconde fois. Cette fois a été la seconde fois a été la bonne. Malgré les avis contraires d'élus et d'institutionnels, au motif que, à 52 ans, mon grand-père n'était plus d'aucune utilité pour la France. C'est écrit comme ça, noir sur blanc, sur le dossier. Et ça m'a révoltée, et c'est vrai que quand j'ai lu le livre de Léonore de Ricondo, ça faisait un écho incroyable, juste avant le stage en plus. Ce passage s'est imposé. Alors on a beaucoup répété ensemble... Et ce que je vais faire, c'est peut-être commencer par le lire.
Et oui, on a dû gérer aussi cette émotion que t'amène ce texte, évidemment, parce que plus le texte est proche de nous, plus l'émotion est forte. Donc, on avait trouvé une astuce pour faire en sorte que tu puisses respirer et la gérer.
Ouais, surtout que...
On t'écoute.
C'est vrai que... Depuis que j'écris, les éditeurs ne cessent de me dire « Oui, mais de la distance, t'as pas assez de recul. » Mais c'est vrai que j'ai assez peu de distance. Hein. Les émotions, elles sont... J'ai du mal à m'en séparer, que ce soit les miennes ou celles des autres, en fait. Alors, Léonore de Ricondo, donc...
On t'écoute.
« Je suis le pont d'une génération, l'autre. Je suis l'histoire qui n'est pas écrite, la mienne et celle de mon fils. Je suis leur histoire. Pas de papier, sauf des mots. Pas d'écrit. » Sauf un monde intérieur. Je suis née française et m'apprête à demander une double nationalité, à l'âge où lui en avait acquis finalement une. Je démarre les démarches en ligne. Décliner son identité, valider, fournir les documents l'attestant, valider, acte de naissance, le mien, celui de mon père, de ma mère, valider, copie du livret de famille, valider, justificatif de domicile, valider, formulaire divers, valider, valider, valider. Puis, une attestation obligatoire. Document justifiant l'exil. Je ne peux pas valider. Je n'ai rien. Alors, je vais reprendre parce que mon texte s'est mélangé. Et c'est important de... c'est un peu comme une séance en temps réel.
Voilà, on est
en répétition, en fait. Hein.
Voilà. Oui. Alors, pense bien à bien faire sonner tes V.
Mais quoi ?
L'élever de valider.
Ok.
Penser à faire en sorte qu'il puisse bien vibrer. Et le B de obligatoire, ça doit être vraiment cette idée de trampoline. Le B d'obligatoire, il est extrêmement important. Donc, tu peux reprendre peut-être un petit peu avant, du coup ?
Oui. Alors, je vais reprendre depuis le début parce que c'est important que les auditeurs...
Je n'ai pas dit ce mot affreux. Voilà, reprends un petit peu avant.
Je suis le pont d'une génération l'autre. Je suis l'histoire qui n'est pas écrite. La mienne et celle de mon fils. Je suis leur histoire. Pas de papier, sauf des mots. Pas d'écrit, sauf un monde intérieur. Et voici qu'aujourd'hui, sur le site internet du consulat d'Espagne en France, une loi stipule que j'ai le droit de devenir espagnole. C'est écrit noir sur blanc. Je suis prise d'une grande fébrilité. Oui, je vais le faire. Cette démarche, comme une forme de réconciliation avec l'Espagne. Ce qui a été aux générations et ce qui a été ôté aux générations précédentes me sera rendu. Je ne me sens pas plus espagnole qu'hier, non. Mais c'est une réparation. Et elle me semble soudain indispensable. Cette nationalité réparera l'injustice. Elle viendra réunir les deux parties d'une guerre civile que je porte en moi. Mon père est passé d'espagnol à apatride, puis français. Je suis née française et m'apprête à demander une double nationalité à l'âge où lui en avait acquis finalement une. Je démarre les démarches en ligne. Décliner son identité, valider. Fournir les documents l'attestant, valider. Acte de naissance, le mien, celui de mon père, de ma mère, validé. Copie du livret de famille, validé. Justificatif de domicile, validé. Formulaire divers, validé, validé, validé. Puis, une attestation obligatoire. Document justifiant l'exil. Je ne peux pas valider. Je n'ai rien, sauf ce qu'on m'a raconté et des photos. En 1936, en pleine guerre civile, il n'y avait aucun papier attestant du passage de la frontière, sauf leur corps passant un pont. Alors,
merci.
Ce qui était difficile ce soir, mis à part la chaleur, c'est que le micro est mobile et immobile, ainsi que le casque. Donc je ne peux pas marcher comme on avait imaginé une mise en scène à rendre fou un espèce de circulaire, une mise en scène circulaire à rendre fou. Et l'idée, c'était d'être oppressé et de faire ressentir cette oppression.
Voilà, c'est ça, et d'avoir des informations au fur et à mesure du chemin.
Alors, entre autres conseils, et celui qui est pour moi fondamental, ne pas lire et marcher en même temps, trop compliqué pour la scène. Marcher, pause, s'adresser à quelqu'un, respiration. Pas les bras en arrière, ça freine la lecture. Or, la transmission est un don, donc bras devant.
Oui.
Lire, pas de par cœur, même si l'on sait, car entre mémoire et lecture, il faut choisir. Ça, c'est ton mantra.
Oui.
Alors, ça tombe bien, c'est également le prérequis que je m'étais fixé sur scène, puisque je ne suis pas du tout une fille qui apprend par cœur. D'abord, je n'aime pas ça et j'ai toujours peur de défaillir. Et surtout, j'adore lire à haute voix. Et ça me vient surtout de l'écriture, parce que quand on écrit souvent à partir dans sa tête. Et quand on se relit à voix haute, c'est là qu'on voit les phrases qui vont pas, la virgule qui va pas. Seule l'oralité permet d'avoir une bonne perception de ce qu'on a écrit. Alors, oui, d'où ça te vient, cette idée de lire pas de par cœur, même si l'on sait ?
Pour avoir vécu les deux, pour avoir vécu la scène avec des textes que j'apprenais par cœur, évidemment, il y a quand même une similitude entre les deux, mais il y a quand même la grande, grande différence... pour moi, quand on apprend par cœur et qu'on est en train de jouer, on est nourri par un personnage, on est nourri par l'imaginaire du personnage qu'on a travaillé et on est investi dedans. À la lecture, les trois quarts du temps, on n'a pas de personnage, ou en tous les cas, on est plus facilement un narrateur, ou quelqu'un qui lit les mots de quelqu'un d'autre pour une raison précise. Hein, les trois quarts du temps, quand on prend, pour moi, en règle générale, quand on prend la parole, on doit savoir exactement quelle est notre intention, ce pourquoi on a envie, ce pourquoi c'est important pour nous de prendre la parole. Donc de lire, donc de jouer. Mais la lecture, pour moi, les gens, il y a souvent, au bout d'un moment, on connaît, on se détache, et puis après on revient et on fait une espèce de mixte qui est pas forcément très heureux, je trouve. Et je préfère qu'on continue de vu qu'on lit, on a le temps de fabriquer de nouvelles images à chaque fois. Notre rapport aux gens, ça c'est comme la scène, mais notre rapport aux gens, notre proximité, ça dépend de comment la scène elle est faite, mais on peut jamais faire vraiment la même lecture. Le jeu, c'est vrai, mais le jeu, il y a une telle mise en scène et on est tellement porté par le personnage que on peut avoir un peu de liberté, mais beaucoup moins qu'en lecture finalement, je trouve. Et donc, pour moi, il faut faire un choix. Et que le mix des deux, des fois, il est pas forcément intéressant. Je dis ça, mais dans mon solo, là, je suis pile poil à cette frontière. Je suis rendue à une vingtaine de lectures et je commence à être à cette frontière. Et là, je m'impose un choix. Là, à la rentrée, je dois faire ce choix. Parce que c'est important, c'est de l'honnêteté, puis pour moi, c'est pas le même travail.
Alors moi, c'est sûr, donc c'est le seul prérequis que j'ai, c'est lire. Alors, on va arriver sur l'intention, et peut-être avant de démarrer mon texte, on parlera de l'intention. Oui. Mais tu avais donné aussi d'autres conseils qui me semblent intéressants de proposer aux auditeurs. Une posture ancrée.
Oui.
Pour éviter le déséquilibre, parce que dès lors qu'on est déséquilibré, le texte se banalise.
Oui.
Incarner jusqu'au point final, jusqu'aux coulisses. Alors c'est vrai qu'on a tendance à la fin à aller peut-être un peu plus vite et parce qu'on est soulagé.
On va se débarrasser des choses et finalement, pour celui qui écoute, c'est très désagréable parce que lui, il est sur sa lancée, et il a envie de continuer. De vivre ce moment-là ou cet état-là. Et d'ailleurs, maintenant, les gens sont très habitués à ça. Mais moi, je lutte contre cette chose-là parce qu'il y a des gens qui rêvent encore. Il y a des gens qui imaginent encore beaucoup de choses et que le point final du texte n'est que le point final, mais pas la fin totale de la lecture, quoi. Et qu'il faut être absolument vigilant de ne pas arrêter le texte à la dernière phrase, quoi.
Alors, autre conseil, ne pas juger ni plaquer ses propres émotions. Alors ça, c'est mon problème, tu l'as dit tout à l'heure.
Il faut avoir un point de vue. Il faut toujours avoir un point de vue. Quand on est sur un plateau de théâtre ou quand on est en lecture, on doit avoir un point de vue sur les choses. C'est-à-dire qu'on a une idée. Là, par exemple, si tu parles du texte que tu viens de lire, ton point de vue, on le connaît parce que tu viens de l'exprimer en quelques mots. On sait où tu te places. Hein. Et donc, ça, c'est très important d'avoir un point de vue, mais de ne pas juger parce que sinon, on enlève cette possibilité au spectateur de pouvoir faire son propre point de vue. Et si on juge tout de suite, on fait mourir le point de vue de l'autre.
Alors, on va essayer d'appliquer tout ça au texte. J'ai choisi un fragment ce soir, hein, parce qu'évidemment, le texte est bien plus long. On va essayer de ne pas plaquer mes propres émotions. Je vais essayer de mettre un peu de distance. Et par ailleurs, il va falloir qu'on trouve...
C'est important de s'en servir.
Trouver le juste milieu.
Voilà, c'est ça. C'est que ce que moi je dis au tout début du stage, c'est qu'il faut faire en sorte de faire attention quand on doit être disponible pour un texte, que l'émotion qu'on a à l'extérieur, si on prend l'exemple de la colère, on vient de se rouspéter avec quelqu'un et puis on rentre et puis on doit faire une lecture, le public n'a rien à voir avec cette colère qui a été vécue à l'extérieur, c'est ça ce que je dis. Après, notre propre émotion, elle est importante de s'en servir, de la mettre au service d'eux, mais toujours de savoir pourquoi et comment est-ce qu'elle vient, comment on la gère, quoi. Mais sinon, c'est l'extérieur, c'est l'émotion qui est vécue à l'extérieur, qui n'appartient pas au public.
Donc l'émotion et l'intention. Alors oui. À ce sujet, tu rappelles qu'interpréter, on interprète pour transmettre. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment ce que je souhaite. Mais non seulement transmettre, alors tu dis aussi, il s'agit de se surprendre et de surprendre le public. Alors ça, j'aimerais, mais je ne sais pas si moi-même je peux en juger. Alors c'est marrant cette phrase d'ailleurs, parce que l'extrait que j'ai choisi, c'est avec mon patron vintage, hein, qui n'arrêtait pas de me dire chaque matin, Elsa, surprends-moi. Parce que je n'étais pas très douée quand j'ai commencé à travailler. Et finalement, j'ai réussi à le surprendre. Alors l'intention, je ne sais pas. Moi, ce que je souhaite, c'est partager un souvenir vintage suffisamment éloquent, fort, et une bande-son de ce souvenir vintage suffisamment forte pour qu'elle ravive dans la salle et auprès du public un souvenir vintage en écho, et que le public ait envie de prendre la parole pour exprimer son propre souvenir vintage. Est-ce que c'est une intention valable ?
Alors, du coup, il faut... j'ai dit ce mot affreux. Il faut être complètement dans ce souvenir. C'est-à-dire qu'il faut que tu puisses te voir... La première phrase, c'est « j'ai 20 ans ». Il faut que tu puisses te voir vraiment, toi, à 20 ans... tes vêtements, ton odeur, ta façon de bouger, ce que tu regardes, la façon dont tu regardes, pour essayer de te transposer au maximum. Plus ton souvenir à toi sera au plus juste de ce dont tu te souviens, si ton intention c'est de faire éveiller un souvenir à l'autre, il faut être complètement dans le tien, mais pas dans le jugement.
D'accord. Alors en effet, ça commence par « j'ai 20 ans, j'ai mis en route » le titre que j'aimerais... Alors, en fait, c'est l'intro, tout simplement, qui prend du temps. Voilà, il arrive. On va pas l'écouter en entier, il fait 4 minutes. Ça va donner quand même une tendance.
Ça va bien avec la chaleur de ce soir.
Ah là là.
Essaye de lire le texte sur la musique pour voir. Essaye de commencer dessus pour voir. Tu peux baisser un peu ?
Oui, bien sûr.
Baisse un peu, puis démarre le texte. On va voir ce que ça fait.
J'ai 20 ans. Je viens de commencer à bosser après des études survolées péniblement. Premier job, je suis engagée comme secrétaire à Promogolf, une agence événementielle spécialisée dans le golf. Dès le début, je me montre désespérante, une vraie imposture. Sans compter que le golf, que je ne considère déjà pas comme un sport, je m'en fiche. Le directeur, LP, veut me virer. Mais mon boss, John, celui qui m'a recruté, refuse. Il est bien le seul à avoir décelé un potentiel chez moi. Alors, j'ai coupé, hein, parce qu'on ne va pas avoir le temps de l'écouter en entier. Mais ça donne une idée de pourquoi j'ai choisi ce titre et pourquoi cette chanteuse Elsa, on va y venir au fur et à mesure du souvenir vintage. Voilà. John, donc, John, qui m'a recruté, refuse de me virer. Il est bien le seul à avoir décelé un potentiel chez moi, qu'il engage à révéler et vite. LP lui accorde jusqu'à la fin du mois.
J'ai pas entendu le vite. Je pense. Et décelé, vu le type de lecture dans lequel tu es, il faut manger le là. Tu vois ?
Qu'il s'engage à révéler et vite.
Décelé.
Ah, tu vois ? Il est bien le seul à avoir décelé.
Non, enlève
décelé.
Le.
Ah bon ?
D'accord. Enlève le oui.
Il est bien le seul à avoir décelé un potentiel chez moi.
Ouais.
Ah ouais, d'accord. Pourquoi ?
Ouais. Parce que c'est du langage direct et tu es certes en lecture, mais pas ça fera sortir l'esprit de la personne parce que on est dans un langage courant et que là il y a quelque chose qui, pour moi qu'il faut enlever pour rester dans le juste et là comme tu l'as fait là tout à l'heure toc potentiel ça. Il est plus facilement entendable.
Il est bien
parce
le seul
à arrêter sur déceler.
Ok. Alors, il est bien le seul à avoir décelé un potentiel chez moi, qu'il s'engage à révéler et vite. LP lui accorde jusqu'à la fin du mois. Jusqu'à la fin du mois.
C'est ça. Vu que t'as pas de ponctuation, là, je suis pas d'accord. Hein,
oui, alors moi je mets pas. Ouais. Parmi nos sponsors, tous prestigieux, l'élite, il y a Fred Joaillier. À l'époque, je suis naïve et fraîche. Dans quelques années, lorsque j'aurai gravi une somme d'étapes existentielles...
Tu vois, alors moi, je ferai une vraie pause à l'élite. Il y a Fred Joaillier. Point. À l'époque, je suis naïve et fraîche pour qu'on puisse entendre les autres parce que sinon, on a deux infos et on a besoin d'un point après Joaillier.
Il y a Fred...
Vas-y, reprends. Alors,
parmi nos sponsors, tous prestigieux, l'élite, il y a Fred Joaillier. À l'époque, je suis naïve et fraîche. Dans quelques années, lorsque j'aurai gravi une somme d'étapes existentielles et que je serai devenue directrice de la communication au sein du groupe La Poste, je ne serai plus ni naïve ni fraîche. C'est facile de quitter la candeur et l'innocence. Y revenir, c'est une autre affaire.
Si je l'avais... Là, ça chante.
Comment ?
Non, stop. Là, ça chante. À partir de... T'es partie et comme t'as arrêté de respirer, tu t'es mise à chanter.
Je ne serai plus, alors, et dans quelques années, je serai devenue directrice de la communication au sein du groupe. Je ne serai plus ni naïve ni fraîche. C'est facile de quitter la candeur et l'innocence. Y revenir, c'est une autre affaire. Si je l'avais su, je serais restée ingénue plus longtemps. En tout cas, ce jour-là, John me dit « Elsa ». Anecdote dans l'anecdote. Jamais personne ne m'a appelée par mon prénom. À tel point... que moi-même, j'ai fini par mettre de côté Isabelle. À chaque étape de ma vie correspond un surnom. La période golf de mes souvenirs vintage est associée à Elsa.
Là, tu avais besoin d'un point. Et donc, tu bugs sur la deuxième parce que tu n'as pas repris et tu n'as pas respiré. À chaque étape de ma vie correspond un surnom. Point.
À chaque étape de ma vie correspond un surnom. La période golf de mes souvenirs vintage est associée à Elsa. À l'époque... Il faut dire que je ressemble comme un sosie à la chanteuse Elsa. Dans la rue, on m'arrête, on me demande des autographes, les caissières des supermarchés, les clients dans les magasins. Et à Promo Golf, tout le monde se presse dans mon bureau pour me voir. Écoute, faut que je te dise quelque chose. Le prends pas mal, hein. Mais tu ressembles vachement à Elsa. Pour vérifier, il m'arrive de réserver au nom de la chanteuse une table au Bouddha Bar ou au Barfly, au Balladio, au Bus Palladium. Oui, parce que j'ai peut-être raté le Taouné, mais désormais, aucune discothèque, aucune boule à facettes ne me résiste. À chaque fois, la personne que j'ai en ligne ne me résiste. Point. À chaque fois, la personne que j'ai en ligne s'informe. Elsa, la chanteuse ? Je réponds un ferme et convaincant. Oui, de ma plus belle voix grave, comme Elsa. Lorsque nous arrivons, on nous accueille au carré VIP. On me tend un calepin que je signe.
Non, tu vois, non, t'as bugué et tu chantes.
Elsa, la chanteuse. Je réponds un ferme et convaincant. Oui, de ma plus belle voix grave. Lorsque nous arrivons, on nous accueille en carré VIP. On me tend un calepin que je signe volontiers, tout sourire. à côté de la dédicace de Vanessa Paradis. On nous offre le champagne.
Je chantais.
Ah ouais, d'accord. Je l'entends.
Ouais.
Lorsque nous arrivons, on nous accueille en carré VIP. On me tend un calepin que je signe volontiers, tout sourire, à côté de la dédicace de Vanessa Paradis. On nous offre le champagne à la table la mieux placée, à la fois en retrait et au-dessus de la piste de danse. Cette combine a fonctionné plusieurs années. Merveilleuse source de réjouissance. Et puis, j'ai fini par ne plus ressembler à Elsa, dont la présence sur les écrans et dans la presse s'est faite plus discrète. De cette époque, il me reste ses souvenirs vintage et quelques articles de la presse spécialisée golf, dans lesquels les journalistes me présentent comme Elsa, la fille au potentiel. Parfois avec, la plupart du temps sans nom de famille. Comme si ce prénom se suffisait à lui seul. J'ai 20 ans donc. Comme Elsa, je porte un jean Levi's 501 taille haute, bandana à la ceinture et Converse aux pieds. Parfois mes Stan Smith. Cheveux bouclés indociles.
Ah, merci. Mais je l'aurais accepté, tu vois.
John,
bougeait. Est-ce que ton indocile, il bougeait? Parce qu'il faut les voir bouger, quoi, tu vois.
Alors là, c'est l'exemple en plus concret de quand on écrit dans sa tête, en plus sans ponctuation, pour parce que j'ai repris mes textes de radio finalement. Quand on écrit dans sa tête pour l'audio et quand on écrit et quand on lit les textes à l'oral, c'est là qu'on se rend compte de ce qui cloche. Alors, cheveux donc bouclés indociles. John, mon boss, propose que je l'accompagne au rendez-vous chez Fred Joyer. La veille, il m'a mise en garde. Elsa, demain, tu viens avec moi renégocier le contrat Fred Joyer. On a rendez-vous avec Monsieur Fred Joyer en personne rue Royale. Alors pour une fois, habille-toi un peu, coiffe-toi, fais un effort. Tu ressembles à une hippie. Avant, j'ai un déj au Cercle Foch. Tu viendras me retrouver à 14h devant l'entrée. Tu m'attendras dans la contre-allée. Tu prendras une voiture de société. Moi, j'irai en taxi et on rentrera ensemble. Le lendemain, je porte une jupe, une veste, des ballerines, peut-être même les cheveux attachés. Il n'y a plus de Elsa. Il n'y a plus de moi non plus. J'aurais bien voulu emprunter l'une des Peugeot de société comme prévu, mais voilà. Au lieu d'enclencher la marche arrière pour quitter la place de parking, je démarre en première droit dans le mur. Bam! Crash! Schling! Clang! En une fraction de seconde, je choisis de rejoindre John avec mon auto Bianchi à Barthes. Point.
Ouais.
J'ai perdu beaucoup de temps. On réglera cette affaire de tôle froissée plus tard. Je me garde dans la contre-allée de l'avenue Foch. C'est la première fois que je me rends dans ce quartier à la fois huppé et louche. J'attends, fenêtre ouverte, clope au bec. Je fumais beaucoup alors. Surtout que c'était permis partout. Alors, je fumais beaucoup à l'époque.
Ouais, parce que tu vois là, le « alors » tel qu'il est placé, à la lecture, ça passe. De le dire, ça passe moins.
Je fumais beaucoup à l'époque. Surtout que c'était permis partout. Des Lucky Strike...
Non.
Je fumais beaucoup à l'époque. Surtout, c'était permis partout. Je fumais beaucoup à l'époque. Surtout que c'était permis partout. Mieux, ça va?
Bof, ouais.
Peut-être la phrase, on s'en fiche. Bon, je fumais beaucoup.
Non, c'est parce que peut-être qu'il ne faut pas la lier, en fait. Le premier constat, c'est que je fumais beaucoup à l'époque. C'est un premier constat.
Je fumais beaucoup à l'époque. Surtout que c'était permis partout. Des Lucky Strike, comme les cow-boys et ceux qui attendent leur heure. Bras qui dépassent de la portière. George Michael à fond. George Michael à fond, par-dessus le bruissement de la ville. Les klaxons tumultent. Alors ça va pas. Parce que en plus, je lis, mais j'ai le texte avec l'interruption des musiques que je pense mettre lors du spectacle. Des Lucky Strike, comme les cow-boys et ceux qui attendent leur heure. Bras qui dépassent de la portière, George Michael à fond, par-dessus le bruissement de la ville. Les klaxons tumultueux du rond-point des Champs-Élysées. Les pigeons qui se disputent les miettes. Et les pigeons qui se disputent les miettes.
Point.
Je m'attendais à voir arriver le baron en pain qui s'était fait enlever et séquestrer, à qui on avait coupé les doigts pour une rançon. Enfin bref.
Non. C'est reparti chanter.
Je m'attendais à voir le baron en pain.
Ouais. Je m'attendais. Oui, il faut le voir bien, bien. Tout ça, c'est pas. Faut le voir enlever, faut le voir séquestrer, tout ça, faut qu'on le voit.
Je m'attendais peut-être à voir le baron en pain, qui s'était fait enlever et séquestrer, à qui on avait coupé les doigts pour une rançon. Enfin bref. Au lieu de ça, un type en jaguar se gare devant moi sans manœuvre particulière. Il sort, alerte, de sa type S et vient à ma rencontre. C'est combien ? Je lui réponds, il y a un parc-mètre juste là, monsieur. Pointant du doigt l'engin sur le trottoir et lui jetant ma fumée de cigarette au visage. Il formule un grognement inaudible, remonte dans sa voiture et démarre en trombe. Pas plus de 2 secondes s'écoulent et voilà qu'une autre voiture se gare devant la mienne. La scène se reproduit à l'identique. C'est combien ? Le parc-mètre juste là, monsieur. Le type consterné, en colère, s'en va. Les pneus de sa Mercedes rutilante crissent. C'est à cet instant précis que John apparaît.
Là, il faut super articuler les pneus. Faut que ce soit hyper articulé.
Le type consterné en colère s'en va. Les pneus de sa Mercedes rutilante crissent. C'est à cet instant précis que John apparaît. Wayfarer sur son nez bronzé, polo Lacoste.
Alors là, il faut que ce soit clair.
Ouais.
Le mot là.
C'est à cet instant précis que John apparaît. Wayfarer sur son nez bronzé. Polo Lacoste rose, un de nos sponsors. Plus pull Glenmuir sur les épaules, encore un sponsor. Pantalon à pinces Cerruti, encore un sponsor. Mocassin à gland. John avise mon auto, que je n'ai pas eu le temps de laver, et qui empeste le tabac froid et chaud. Son visage se ferme. Elsa. C'est quoi cette caisse pourrie ? Bah, c'est ma voiture, tu la connais. Mais ce n'était pas... Oui, écoute, il y a eu un souci avec la Peugeot, je t'expliquerai. Il lève les yeux au ciel.
Tu l'as écrit comme ça. Tu l'as écrit, je t'expliquerai. Tu dis, je t'expliquerai.
Ouais. Mais ce n'était pas... Oui, il y a eu un souci avec la Peugeot, je t'expliquerai. Il lève les yeux au ciel, souffle, mais n'émet aucune parole susceptible de rajouter de l'agacement à l'irritation. Je démarre. Il marmonne entre ses dents crispées. Pour moi, le sujet est clos et sans enjeu. Je pense détendre l'atmosphère. Ton déjeuner, John, c'était bon ? Grommelle-t-il, tout en m'enlevant la clope des lèvres qu'il jette par la fenêtre. Tu sais quoi ? Je fais genre, tout est ok. Deux types...
Non, j'ai pas entendu le thé. Tu.
Tu sais quoi ? Je fais genre, tout est ok. Deux types viennent de me demander combien c'était de se garer ici. Le parc-mètre est juste là. John tourne son visage contrit vers moi, ôte ses rébanes et conclut, Elsa, cette allée, cette contre-allée. Elsa, cette contre-allée, c'est celle des putes. Alors, qu'est-ce que ça donne ?
Bah voilà. On a corrigé au fur et à mesure. Je pense qu'il faut absolument, mais bon, tu vas avoir aussi la musique, donc ça va te permettre de. Mais il faut absolument laisser des temps de respiration pour nous, pour toi. Ça va être le travail, à la mise en scène, il va aussi pouvoir t'aider de faire en sorte de te stopper, pour pouvoir prendre le temps de vivre chaque événement, parce qu'il faut que les gens ils puissent se créer leur propre film, quoi. Tu vois?
Alors, est-ce que ça t'a donné à toi envie de partager le souvenir vintage ? Alors, vintage, en plus, ça veut dire 20 ans. Et donc, on est en pile dans les 20 ans. Est-ce que ça t'a donné envie de partager un souvenir vintage de tes 20 ans ? Voilà, devant les auditeurs. Face aux auditeurs, je suggère que tu dises oui.
Oui, ça m'a fait penser.
Merci.
Par rapport à la voiture. Parce que j'avais 20 ans.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On a un petit peu de temps.
En fait, j'étais élève à l'école du studio théâtre à Nantes et on jouait un festival à la Gournerie à Saint-Herblain. à côté de Nantes, et puis on était voilà les le groupe, notre troupe quoi, voilà, on discutait avec des filles dehors, on jouait pas, on discutait, on buvait un café. Et là, il y a un gars qui arrive et qui dit bon, alors voilà, je suis sûre que là, entre vous, là, il n'y en a aucune de vous qui a envie de jouer ma femme pour aller acheter un costume et il faut qu'elle ait une voiture. Il dit, je suis sûre, il n'y en a aucune de vous. Et je dis, bah moi, j'ai une voiture et moi, je veux bien jouer ta femme pour aller chercher un costume dans un magasin genre de Vred ou un truc comme ça, tu vois. Et donc le gars, je l'avais pas vu, j'avais même pas vu leur spectacle, et c'était Eric Burdaille des Burattini, qui était une superbe troupe amateur n'importe quoi, superbe troupe de théâtre de rue, hyper drôle, et donc on est allé parce que pour le spectacle il lui fallait un costume, et donc il m'a évidemment présenté comme sa femme dans le... Parce que quand il a dit qu'il voulait tout acheter, le costume, les chaussures, cravate, chemise, et donc les
mais
gens...
Mais ça, je pense qu'ils ont dû comprendre que tu n'étais pas sa femme, parce que les femmes, en général...
Et donc, il me demandait sa taille.
Ah.
Vu que je le connaissais depuis 10 minutes, voilà quoi. Donc, et puis, on s'engueulait, on a fait des scènes dans le train. Bref, on a énormément ri. Et c'était superbe. Et voilà mon souvenir vintage. Et donc voilà. Et j'avais une Super 5. Et je me disais, quand il va voir ma bagnole. Mais je crois qu'il s'en foutait. Il était très content que quelqu'un accepte ce jeu. Et on a beaucoup ri.
Ah ben, je pense que Jean-Louis aussi, il s'en foutait en vrai. Même si. Et par la suite, on a bien ri aussi. Mais la suite, au prochain numéro. Alors, eh bien, en l'occurrence. Voilà. Ce qui me donne l'occasion de conclure. Alors, chère Delphine, merci d'être venue ce soir. Merci pour les petits bugs du début qu'on a assez habilement rattrapés.
Voilà, c'est ça. En espérant que les auditeurs soient restés avec nous, mais on l'espère.
Oh, mais les éditeurs sont habitués maintenant à mes petits bugs techniques. Ouais. Donc, les auditeurs y restent. Et je crois que c'est même ça qui... C'est même ça qui les fait rester, le petit bug du dimanche soir. Mais à chaque fois, il est différent en plus. Donc j'ai fait tous les... Je suis sûre qu'il y en a encore plein à tester. Alors Delphine, est-ce que, avant de terminer, est-ce que tu as une actu Bataïa,
La compagnie, quoi. Bah, oui, il y a une grande actu, c'est qu'on a notre film documentaire. Voilà. On veut jouer à la passerelle avec ces acteurs au mode et au rythme de pensée différents qui s'expriment sur le fait de faire du théâtre, qui s'expriment sur le fait d'avoir trouvé à la fois une famille et une liberté. On interroge sur le fait de... Voilà, comment ça se fait qu'on n'écoute pas, en fait. Souvent, on parle à la place des personnes en situation de handicap. Et là, c'est un film où on doit les écouter. Donc, c'est très bien. Et c'est Jacques-Yves Lafontaine du studio Le Rocher qui a réalisé le film. Et on espère que vous pourrez le voir à Brest très prochainement.
Et donc, c'est pour ce projet que tu crées une démarche participative.
Voilà, c'est ça. Et donc on a une page sur Hello Asso qui s'appelle dire oui à la différence, pour nous aider. En fait, ce film a été créé en autoproduction complète et voilà, on pensait que à la finale on allait avoir des contrats qu'on n'a pas eu et on fait en sorte cette collecte concerne 21 personnes entre les acteurs et voilà, on est aussi toute une grande équipe au niveau de la mise en scène, de la technique, une équipe qui me suit depuis la compagnie du Chien Bleu. Et voilà, on a lancé une collecte parce que notre projet est citoyen et qu'on fait un appel citoyen. Voilà.
Merci
Hello Asso Bataïa.
Alors, Hello Asso Bataïa, de toute manière, je mettrai les liens présentant Bataïa et ton projet sur le site de Radio U et en podcast, sachant que la mise en ligne sur le site de l'émission de cette émission de ce soir est prévue en début août, parce que la personne qui met en ligne sur Radio U est en vacances en juillet.
D'accord, c'est juste fin août.
En revanche, je vais essayer, je ne l'ai pas fait jusqu'à présent, mais cet été, je vais le faire. Je vais essayer de créer sur YouTube les 4 émissions. Je vais les mettre en ligne sur ma chaîne YouTube, donc avec tes liens.
D'accord.
En commentaire.
Ok, super. Merci Isabelle.
Donc Delphine, on se retrouve le 9 août.
Voilà.
Hein, pour une deuxième, oui. Un deuxième fragment. Bah, on poursuivra l'histoire.
Texte.
Cette histoire-là. Dans 15 jours, ce sera Steve Brudenelson qui m'accompagne sur un autre fragment du spectacle. Et donc, Les Élucubrations d'Hermeline, la saison 1 est en écoute et en réécoute sur 101.1 FM, sur radio-u.org et en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Delphine, bye bye. À début août, avec plaisir. Merci de ta présence.
Merci de l'invitation.
Et merci, chers auditeurs. J'espère que vous.
Et auditrices.
Chers auditeurs et auditrices, j'espère que vous ferez partie du public à la Comédie du Finistère le 9 septembre à 20h et que vous serez aussi tolérants sur scène que vous l'êtes à la radio, parce qu'il y aura des bugs, je pense. C'est pas impossible. Et. Puisque c'est peut-être ma marque de fabrique. Mais c'est pas grave, on partagera ça ensemble. C'est génial.
Nous sommes des humains.
Voilà. Merci, bonne soirée à tous et bonne semaine et bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances.
Oui, bonne soirée à tout
bye
le monde.
Bye
bye. Bye bye.
Les élucubrations d'Hermeline sur Radio U 101.1 FM.